Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un domaine assez pointu, la chirurgie du rachis. On a sous les yeux un guide technique très détaillé et aussi des infos sur un parcours spécifique pour les patients canadiens qui viennent se faire opérer en France. Notre but, essayer de démêler un peu tout ça, les types d'opérations, les technologies et surtout comprendre comment ça marche concrètement quand on part à l'étranger pour ce genre de soins. Alors, on y va?
Oui, bonjour. Et effectivement, ces documents donnent une bonne vue d'ensemble. On voit qu'il y a différentes options, hein. Ça va de la simple libération d'un nerf jusqu'à des techniques plus complexes qui cherchent soit à garder la mobilité de la colonne, soit au contraire à la bloquer, à la fixer. Et puis, il y a ce service, oui, très structuré pour aider justement à accéder à cette expertise française.
Alors, le guide parle de trois grandes approches. La libération simple d'abord, sans mettre d'implant. Ensuite, une catégorie motion, mouvement, qui, elle, utilise des implants pour que ça bouge encore. Et la dernière, c'est la fusion qui soude, en quelque sorte, les vertèbres. Comment on choisit entre tout ça?
Le choix, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de la pathologie exacte, bien sûr, de l'état général du patient, de ce qu'on veut obtenir. Mais ce qui ressort bien, et c'est intéressant, c'est cette tendance forte à vouloir préserver le mouvement le plus possible. C'est la catégorie motion. L'idée, en fait, c'est d'éviter la rigidité qu'entraîne la fusion. Parce que cette rigidité, parfois, elle peut user plus vite les vertèbres juste à côté à long terme.
D'accord, préserver le mouvement. Et quels sont les implants qui permettent ça? Les sources en citent plusieurs, j'ai vu.
Oui, tout à fait. Il y a une certaine variété. C'est assez fascinant. On trouve par exemple des petits dispositifs, un peu comme des cales souples, qu'on met entre les vertèbres. C'est l'intraspine, en silicone. L'avantage, c'est que ça permet une récupération souvent plus rapide. Après, il y a des systèmes avec des vis spéciales, qu'on appelle pédiculaires, bien ancrées dans l'os, reliées entre elles par une tige qui n'est pas rigide, mais dynamique. Le bedine, par exemple.
Dynamique, c'est-à-dire qu'elle autorise un certain mouvement.
Exactement. Un mouvement contrôlé. Et puis, il y a les prothèses discales. Là, on remplace carrément tout le disque abîmé. La LPESP en est une, souvent posée par l'avant en passant par le ventre. Ou encore, des systèmes pour l'arrière des vertèbres, comme le TOPS. On l'utilise parfois quand une vertèbre a glissé sur une autre, ce qu'on appelle un spondylolisthésis.
D'accord, une vraie palette d'options pour la mobilité. Et la façon d'opérer, elle change aussi. On entend beaucoup parler de minimalement invasif.
Oui, absolument. C'est une autre évolution importante. Il y a l'endoscopie. On passe par de tout petits trous, avec une caméra, des instruments très fins. Ça peut vraiment accélérer la récupération. Il y a l'approche minimalement invasive, MIS, où on utilise un petit tube pour écarter les muscles sans les couper. Ça limite les dégâts, quoi.
Moins de cicatrices, moins de douleurs post-opératoires, j'imagine.
C'est l'idée. Et puis, bien sûr, il reste l'approche open, l'ouverture classique, plus large. On la garde pour les cas vraiment complexes, où il faut bien voir toute la zone. Mais la règle générale, c'est moins on est invasif, plus la récupération est rapide.
Bon, c'est clair. On a donc pas mal de techniques, d'implants, mais la question c'est comment un patient canadien, par exemple, peut accéder à tout ça en France, surtout si certaines de ces technologies ne sont pas encore chez lui. C'est là qu'intervient ce parcours franchir dont parlent les documents.
Tout à fait. C'est là que ces services d'accompagnement entrent en jeu. Ils organisent vraiment tout le parcours, de A à Z. L'argument principal, il est double en fait. D'abord, l'accès potentiel à des implants ou des techniques spécifiques, peut-être plus récents ou différents. Et ensuite, et c'est sans doute le plus important, l'accès à des chirurgiens français qui ont une très grande expertise dans ces domaines précis. Ils opèrent dans des centres reconnus, les documents citent Bordeaux, Le Mans, Orléans par exemple.
Et ce parcours, il a l'air très organisé, très cadré pour simplifier les choses et rassurer, non?
Oui, la structure, c'est vraiment un point essentiel. Ça commence par une évaluation, souvent à distance, hein, sur la base du dossier médical canadien. Pour FRI, mentionne un partenaire à Montréal, Neurothérapie Montréal, qui aide à préparer ce dossier.
D'accord. Donc une première étape sans avoir à voyager.
C'est ça. Ensuite, si le cas est retenu, il y a un plan de traitement personnalisé, avec un devis détaillé, très transparent. Puis ils prennent en charge toute l'organisation logistique. Les vols, les transferts sur place, l'hébergement souvent dans des hôtels de bon standing, 4 ou 5 étoiles.
Et le séjour en France pour l'opération?
Pour le parcours franchir, il parle d'environ 9 à 11 jours sur place. Ça couvre les consultations avant l'opération, la chirurgie elle-même et les premiers jours de convalescence à l'hôpital ou en clinique. Et après, une fois de retour au Canada, le suivi est assuré. Il y a une coordination avec le médecin traitant là-bas, souvent par télésanté.
On sent vraiment la volonté de maîtriser tout le processus pour éviter le stress d'une opération à l'étranger.
Exactement. La transparence sur les délais est mise en avant. Évaluation en 48 heures, consultation possible en 7 jours et l'opération elle-même dans un délai de 2 à 4 semaines. Il y a aussi une plateforme sécurisée pour communiquer, un interlocuteur unique, tout est fait pour réduire l'anxiété. Les documents mentionnent même des matrices décisionnelles pour aider à choisir le bon implant selon le cas. Ça montre une approche très méthodique.
Alors, si on devait résumer l'essentiel de ce qu'on a vu...
Je dirais qu'il y a deux points clés. D'une part, on voit une chirurgie du rachis qui évolue beaucoup, avec une forte tendance à préserver la mobilité naturelle grâce à de nouvelles technologies d'implants. Et d'autre part, on voit l'émergence de parcours de soins internationaux très bien organisés. Ils permettent à des patients, comme les Canadiens ici, d'accéder à cette expertise et à ces technologies spécifiques en France, avec un accompagnement vraiment complet, logistique et médical.
Et ça nous amène à une dernière petite réflexion peut-être. Le fait que de tels parcours existent pour aller chercher des techniques ou des implants spécifiques à l'étranger, qu'est-ce que ça nous dit au fond sur les différences d'accès aux soins ou peut-être sur le rythme des innovations, voire les philosophies de traitement entre nos systèmes de santé nationaux, même dans des pays développés comme les nôtres? C'est une question intéressante à garder en tête.